Voix Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Gaby Dorsil et Morgane Guériac, bienvenue dans cette édition du mardi 25 octobre. Au sommaire ce soir.
Et Simone Gbagbo refuse de comparaître à son procès. Hier, ses avocats ont eux aussi claqué la porte. L'ex-première dame de Côte d'Ivoire est jugée pour crime contre l'humanité.
Une double attaque meurtrière des islamistes Shebab au Kenya et en Somalie. Bilan provisoire, 12 morts au Kenya et au moins 15 soldats de la MISOM tués en Somalie.
Et plus de 60 personnes ont été tuées au Pakistan dans une attaque contre une école de police.
Présidentielle américaine, regain d'enthousiasme dans le camp de Donald Trump qui dénonce les sondages qu'il qualifie de truqués et prédit une victoire surprise sur Hillary Clinton le 8 novembre.
L'économie et les sports, c'est juste après le journal. Reprise des activités ce mardi à Bangui. La capitale centrafricaine était paralysée hier par une journée ville morte observée à l'appel de la société civile. Mobilisation pour exiger le départ de la MINUSCA du pays. Le point sur place avec Freeman Sipila.
Aujourd'hui, la circulation a repris sur les principales artères de Bangui. Les marchés ont rouvert, de même que les institutions bancaires et stations-service. Seule la reprise des classes était encore perturbée. Craignant de nouvelles tensions, les parents n'ont pas voulu libérer leurs enfants pour se rendre dans les écoles. Pour la société civile qui a annoncé mardi une trêve dans sa mobilisation, la journée d'hier a été une réussite malgré les morts et les blessés enregistrés. Hommes politiques et leaders communautaires sont unanimes sur l'expression du ras-le-bol du peuple, mais sont toutefois en désaccord sur la demande du retrait de la MINUSCA. Pour Parfait Onanga Anyanga, chef de la MINUSCA en Centrafrique, exiger le départ de la mission onusienne est une demande inappropriée. Sur l'incident meurtrier du lundi impliquant les casques bleus, M. Onanga a annoncé l'ouverture d'une enquête mixte. Le bilan officiel de la journée ville morte de ce lundi fait état d'au moins 4 morts et 14 blessés, dont 5 soldats de l'ONU. Freeman Sipila, Bangui, VOA Afrique.
Et c'est dans ce contexte de violence que la France dénonce les provocations et attaques contre la force de l'ONU en Centrafrique. Paris, qui va mettre fin à l'opération Sangaris à la fin de ce mois, réaffirme tout son soutien à la MINUSCA.
L'Union des syndicats du Tchad a décidé d'observer une grève sèche, même dans les hôpitaux, après 2 mois d'arrêt de travail avec service minimum. Sur la liste des revendications, les arriérés de salaire des mois de septembre et octobre, le 13e mois pour tous les travailleurs, les pensions des retraités, les subsides des communautaires, la bourse des étudiants et surtout l'annulation des 16 mesures prises par le gouvernement pour geler, entre autres, les primes et indemnités de recherche des enseignants-chercheurs.
En Côte d'Ivoire, Simone Gbagbo, ancienne première dame, a refusé de comparaître à son procès à Abidjan. Ses avocats avaient annoncé la veille qu'ils suspendaient leur participation en raison de l'impossibilité de faire témoigner certaines personnalités. Anastasie Tudièche.
Selon le procureur général Ali Yeo, Madame Gbagbo a fait dire qu'elle ne pouvait pas venir à la barre en conformité avec la décision de ses avocats de suspendre leur participation. Le juge a donc suspendu le procès pour le reporter au 3 novembre, mais rien ne dit que la situation aura changé d'ici là. Pour Maître Ange Rodrigue Dadje, avocat à la défense, c'est au juge de prendre leurs responsabilités. Les avocats de Mme Gbagbo avaient demandé hier à entendre Guillaume Soro, actuel président de l'Assemblée nationale et ancien chef de la rébellion, Jeannot Kouadio-Ahoussou, ancien premier ministre, et bien d'autres personnalités qu'ils jugent indispensables à la manifestation de la vérité. Cette requête a été rejetée par le juge. Les avocats de Mme Gbagbo ont donc suspendu leur participation. Madame Gbagbo comparaît devant la cour d'assises d'Abidjan. Elle est accusée de crimes contre l'humanité. L'ancienne première dame purge déjà une première peine de 20 ans de prison pour atteinte à la sûreté de l'État.
Les islamistes somaliens Shebab ont mené ce mardi une double attaque meurtrière en Somalie contre une position de la force de l'Union africaine et à Mandera au Kenya où il y a eu au moins 12 morts. On fait le point avec Nani Talani.
L'attaque du Kenya a eu lieu tôt ce matin dans une ville frontalière de la Somalie. Selon l'administrateur en charge de la sécurité dans la région du nord-est kényan, Mohamed Saleh, ce mardi matin, une bombe artisanale a explosé dans l'hôtel Bicharo à Mandera. Au moins 12 personnes ont été tuées. Tous les occupants de l'hôtel ont été évacués et 6 ont été sortis vivants des décombres. En Somalie, l'attaque au camion piégé a visé une position de la force de l'Union africaine à Beldouen, dans le centre du pays. Un kamikaze a frappé le camp avec un véhicule rempli d'explosifs. Les Chebab ont revendiqué les deux attaques via le site de leur station Radio Andalus, affirmant avoir tué 15 personnes et ajoutant que l'attaque du Kenya s'inscrit dans une volonté de chasser les infidèles dans le nord-est du pays à majorité musulmane.
Catastrophe ferroviaire au Cameroun, une enquête judiciaire a été ouverte suite à l'accident qui a coûté la vie à au moins 79 personnes. Un train assurant la liaison Yaoundé-Douala a déraillé vendredi près de la ville d'Esseka.
Génocide rwandais, le procès en appel de Pascal Simbi Kangwa s'est ouvert aujourd'hui devant les assises de Bobigny, près de Paris, 2 ans après sa condamnation à 25 ans de prison. Il s'agit du premier rwandais condamné en France pour sa participation au génocide de 1994 au Rwanda.
D'autre part, en Suède, le parquet et la police ont annoncé l'arrestation aujourd'hui d'un Suédois d'origine rwandaise de 48 ans, soupçonné de génocide. Son identité n'a pas été révélée, mais le suspect a été interpellé à son domicile à 160 kilomètres à l'ouest de Stockholm. Il était arrivé en Suède en 1998 et a été naturalisé en 2006.
Dans le sud du Nigeria, les vengeurs du delta du Niger revendiquent la destruction d'un oléoduc de la compagnie Chevron. L'attaque intervient à quelques jours de pourparlers prévus avec des membres du gouvernement pour faire cesser les actes de sabotage contre les installations pétrolières.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Au Pakistan, 61 personnes ont été tuées et 118 blessées par 3 kamikazes lourdement armés ayant fait irruption pendant la nuit dans une académie de police à Quetta. Nathalie Barge.
Il s'agit de l'une des attaques les plus meurtrières cette année après celle de Lahore en mars qui avait fait 75 morts et celle contre l'hôpital de Quetta en août dans laquelle 73 personnes ont péri. La plupart des victimes sont des jeunes recrues de l'école de police. Certaines ont été blessées en sautant par les fenêtres pour s'enfuir. Après l'intervention des forces de sécurité, 2 kamikazes ont actionné leur ceinture d'explosifs. 2 groupes ont revendiqué l'attaque, les talibans pakistanais et l'organisation État islamique. Les premiers disent qu'elles visaient à venger la mort de leur moudjahidine dans le Punjab, et les seconds affirment qu'elle a été menée par 3 kamikazes de l'État islamique. L'armée pakistanaise l'a attribuée à Lashkar-e-Jhangvi, un groupe allié des talibans.
Les préparatifs ont commencé pour isoler Raqqa, capitale du groupe État islamique en Syrie, simultanément à l'offensive en cours sur la ville irakienne de Mossoul. C'est Ashton Carter, secrétaire américain à la Défense, qui l'annonce. Monsieur Carter a par ailleurs souligné que la reprise de cette ville serait faite par des forces locales motivées. Il répondait ainsi aux questions de la presse à l'issue d'une réunion à Paris de 13 ministres de la Défense de la coalition internationale anti-djihadiste.
La Turquie persiste et signe. Le gouvernement américain doit extrader Fethullah Gulen, un prédicateur autrefois proche du gouvernement turc, qu'il accuse d'être le cerveau du putsch manqué de juillet dernier. Ce mardi, le ministre turc de la Justice, Bekir Bozdag, a exhorté Washington à remettre Gulen, qu'il a comparé à Osama Ben Laden. Il a fait cette déclaration peu avant de s'envoler pour les États-Unis, où il doit rencontrer Loretta Lynch, son homologue américaine.
En France, c'est la colère des policiers. Ils réclament plus de moyens. Depuis une semaine, le mouvement ne faiblit pas. Une rencontre est prévue demain entre le président François Hollande et les syndicats. Saloua Jafari.
Les policiers français ont lancé un nouvel appel au rassemblement demain devant l'Assemblée nationale. Le président François Hollande doit aussi recevoir demain les organisations syndicales de la police. Un fait rare et inédit, depuis plus d'une semaine, des centaines de policiers en tenue civile manifestent à Paris. Hier, ils ont battu le pavé de la place de l'Opéra au ministère de la Justice, place Vendôme. Des voitures de police en patrouille ont déclenché leurs sirènes en guise de solidarité. Des taxis, des autobus et des piétons ont également manifester leur soutien. Une attaque au cocktail Molotov contre 4 policiers le 8 novembre en banlieue parisienne a déchaîné ce mouvement d'humeur. Après une année d'état d'urgence, suite à une vague d'attentats, les policiers français réclament plus d'effectifs, plus de moyens matériels et des peines sévères pour leurs agresseurs.
La Commission européenne a donné son feu vert aujourd'hui à une nouvelle prolongation exceptionnelle de 3 mois des contrôles à certaines frontières intérieures de l'espace Schengen. Ces contrôles ont été réintroduits en 2015 par 5 pays confrontés à la crise migratoire. Un retour à la normale aux frontières européennes était pourtant prévu pour la fin du mois de décembre prochain.
Et des milliers de Yéménites désireux de voyager se disent bloqués depuis des mois à Sanaa, capitale du Yémen. Depuis le 9 août, la coalition menée par l'Arabie Saoudite interdit tout vol commercial au départ et à destination de la capitale afin d'empêcher des livraisons d'armes aux rebelles et leur libre mouvement. Seuls les vols humanitaires opérés par les agences des Nations Unies sont autorisés au cas par cas et l'insécurité rend impossible le déplacement vers les aéroports du Sud.
Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com.
Coup d'œil sur l'actualité économique en Afrique et ailleurs. C'est la Minute Éco avec John Lindon.
5 milliards de dollars, c'est le montant de la somme que la Corée du Sud a promis à l'Afrique pour soutenir son développement. Cette promesse a été faite hier devant les représentants d'une quarantaine de pays africains à l'occasion de la Korea-Africa Economic Cooperation qui se tient jusqu'au 27 octobre à Séoul. Ces nouveaux engagements, qui pourraient être doublés à moyen terme, portent sur les années 2017 et 2018. 182 milliards de francs CFA en 2015 est le chiffre d'affaires réalisé par les compagnies d'assurance au Cameroun. Une note de l'Association des sociétés d'assurance au Cameroun révèle que ce chiffre d'affaires a connu une nette augmentation puisqu'en 2014, les assureurs n'avaient réalisé que 161 milliards de francs CFA. L'association souligne que ce résultat traduit non seulement le bon comportement général du secteur des assurances, et surtout démontre le potentiel pour aller au-delà des chiffres actuels. Twitter, le site de microblogging en quête d'un acquéreur, prévoit de supprimer environ 300 postes, soit 8% de ses effectifs, et l'annonce pourrait être faite avant la publication de ses résultats prévus jeudi, selon l'agence Bloomberg.
Et nous passons tout de suite à la page sport, Morgane.
Oui, retour de la NBA sur les parquets et cette nuit.
Le championnat américain de basketball débute cette nuit donc avec le champion en titre, les Cleveland Cavaliers de LeBron James face aux New York Knicks. Cette saison 2016-2017 sera aussi l'occasion de voir évoluer de nouveaux basketteurs américains en NBA, notamment le Camerounais Pascal Siakam, qui a été drafté lors de la trêve estivale par les Toronto Raptors. Le Ghanéen Ben Bentil ou le Malien Cheikh Diallo découvrent la NBA. On notera aussi, Morgan, le Sénégalais Djorghi Dieng ou le Congolais Emmanuel Moudiaï. À suivre deux autres matchs ce soir, Portland et Utah et Golden State contre mon équipe préférée, San Antonio Spurs.
Et les Lakers qui se séparent de leur joueur chinois.
Oui, recruté après les derniers Jeux Olympiques, le chinois Yi Jianyan ne sera pas conservé dans l'effectif des Lakers. L'intérieur chinois, 28 ans, 2m12, n'aura donc joué que la pré-saison, 3 points, 2 rebonds et demi avec la franchise californienne qui devait lui faire de la place afin de ne posséder plus que 15 joueurs à l'entame de la saison. À 28 ans, Yi Jianyan espérait se refaire une place à NBA, lui qui n'y avait plus joué depuis 4 ans. Yi a déjà disputé 272 matchs de NBA avec des moyennes de 7,9 points et 4,9 rebonds par match sous les maillots de Milwaukee, New Jersey, Washington Wizards et Dallas Mavericks.
Zidane, pas préoccupé par le manque de réussite de Ronaldo.
Oui, l'entraîneur du Real Madrid a assuré ne pas être préoccupé par le manque de réussite devant le but de son attaquant vedette Cristiano Ronaldo en conférence de presse avant le 16e de finale aller de la Coupe du Roi contre Cultural Leonesa mercredi. Il a encore de nombreuses occasions et bientôt il les mettra. Il a insisté Zidane, minimisant l'importance des sifflets essuyés par le Portugais à Santiago Bernabéu dimanche lors de la victoire des siens contre l'Atlético Bilbao 2-1.
Et enfin, en tennis, Madison Keys, 7e joueuse mondiale, s'est relancée dans la course aux demi-finales du Master féminin à Singapour.
L'Américaine a surclassé la Slovaque Dominika Cibulková, 8e en 2-7, 6-1, 6-4 dans le groupe rouge. Et tout reste ouvert dans ce groupe où même Cibulková conserve une chance de décrocher une place pour le dernier carré. Voilà pour les sports.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Et si vous venez à peine de vous brancher sur VOA Afrique et voafrique.com, nous sommes Morgane Guiriec et Gabi Dorsil en votre compagnie. Place maintenant au dossier du jour.
En Guinée, les accords signés le 12 octobre à l'issue du dialogue politique divisent la classe politique. Certains partis de l'opposition dénoncent le projet de modification d'une disposition de loi sur les élections locales et décident de se faire entendre à l'Assemblée nationale. Notre correspondant à Conakry, Zakaria Camara, fait le point.
Plusieurs partis politiques, des organisations de la société civile guinéenne, voilà la condition de la nouvelle plateforme née du désaccord sur les accords politiques obtenus il y a quelques jours à Conakry. C'est une attaque à la souveraineté du peuple, un recul de la démocratie, dénonce le député Ibrahima Sylla Ba, membre de la plateforme nationale de défense des droits des citoyens.
Alors nous allons faire des pétitions, nous allons organiser des caravanes de sensibilisation et nous invitons toute la population du pays de contacter leurs députés pour qu'ils récusent cette disposition. Et c'est seulement de cette manière que nous allons atteindre notre objectif.
Premier à signer la pétition, Ibrahima Sylla Ba dit vouloir compter sur le soutien des populations guinéennes pour faire barrage au projet de désignation des chefs de quartier de district. Pas question de laisser passer ce projet, il faut des élections à la base, nous dit à son tour Abdourahmane Sano, président de la plateforme nationale de citoyens unis pour le développement.
Les chefs de quartier ne doivent pas être désignés. La Guinée a une tradition d'élection des autorités de proximité. Ensuite, le mode de désignation qu'ils ont indiqué pose énormément de problèmes. D'abord, il faut reconnaître que les chefs de quartier, depuis leur nomination, jouent un rôle néfaste. Ils sont à la base de tous les conflits domaniaux dans le pays. Ils n'ont aucun respect, surtout lorsqu'ils sont en position de force, lorsqu'ils sont adossés à des autorités supérieures.
Avec ce projet de désignation des chefs de quartier et de district, on risque de voir naître d'autres crises, prévient le juriste Mohamed Camara.
Les partis politiques étaient les seuls habilités à présenter les candidats aux élections nationales conformément à l'article 3 de la Constitution. Mais les élections de proximité, notamment celles du quartier et du district, étaient réservées exclusivement aux citoyens de manière à dépolitiser les structures à la base. Parce que les partis politiques n'ayant pas trouvé une sorte d'entente entre eux, chaque camp veut avoir un droit de regard sur le fonctionnement d'une élection. Et ça fait que de la même manière, ils sont parvenus à paralyser le fonctionnement de la Commission électorale nationale indépendante en voulant donner des injonctions à leurs membres là-bas. Je crains que la même chose ne se produise au niveau de ces quartiers et de ces districts. Conséquence, la crise à ce niveau-là n'aura été que reportée et puis à une ampleur aggravée.
Conakry, Zakaria Camara, pour la Voix de l'Amérique.
La Voix de l'Amérique à Conakry sur Sabari FM, Soleil FM et Gangan FM. La Voix de l'Amérique, c'est aussi sur Milo FM à Cancan et Sigiri, Liberté FM à Nzérékoré et Bolivar FM à Mamou.
Le Cameroun, toujours sous l'état de choc après le déraillement d'un train qui a fait au moins 79 morts et plus de 600 blessés. John Lendon a joint Sylvain Anzongo, un des rescapés de cet accident.
Effectivement, j'étais dans le train 152 de Camara qui a quitté Yaoundé autour de 11h15. Autour de 12h52, on a entendu un bruit sourd qui a été accompagné d'une espèce de fumée qu'on voyait à travers la vitre de la porte arrière de notre wagon. Le tout premier d'ailleurs qui était attelé à la locomotive. Et puis on s'est rendu compte que tout de suite, vers l'entrée de la gare des Eka, il y avait une rupture d'attelage et qu'on était complètement coupé des autres 15 wagons voyageurs qui étaient derrière nous. Tout de suite, notre wagon a pris de la vitesse, de l'allure, et puis on a continué avec la locomotive en laissant derrière nous les 15 autres wagons.
On a compté des morts, des blessés. Vous êtes certainement revenu sur les lieux.
Il y avait beaucoup d'images vraiment horribles. Quand on voyait un peu des gens sous les rails, sous le train, des gens qui étaient couverts de boue, des gens qui étaient complètement déchiquetés, c'était l'horreur, c'était des images insoutenables.
Les chiffres officiels parlent de plus de 60 morts. Est-ce que ces chiffres sont exacts? À votre avis?
Je n'ai pas le pouvoir de confesser ces chiffres-là, mais je dois dire que les gens sont beaucoup plus dans l'émotion. Je pense qu'il peut y avoir une centaine de morts, parce qu'actuellement, le gouvernement est déjà à pratiquement 80 morts et 600 blessés. Mais les gens ont tout de suite dit qu'il y avait 300 morts, 400 morts. Ça, je ne peux pas le dire, parce qu'il y avait des gens parfois qui étaient juste inertes ou qui étaient dans le coma, et on ne peut pas décréter que ces gens étaient morts.
Et maintenant, comment s'est opérée la prise en charge des blessés?
Le gouvernement, je dois dire que le gouvernement a réagi un peu sur le tard, parce que c'est dans l'après-midi qu'on a appris qu'une délégation ministérielle composée du ministre des Transports, de la Santé, de l'administration territoriale devait faire une descente sur le terrain. Mais entre-temps, les victimes étaient vraiment abandonnées à elles-mêmes dès le départ. C'est plus tard dans la soirée qu'on a appris qu'il y avait le gouvernement qui faisait quelque chose. La société a envoyé des bus pour transporter des gens qui étaient certaines personnes qui devaient continuer le voyage à Douala. Donc voilà un peu ce que l'impression, les premières impressions qu'on a eues. On a eu l'impression que le gouvernement a réagi avec beaucoup de lenteur.
Sylvain Onzongo, un rescapé de l'accident ferroviaire survenu vendredi au Cameroun.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur voafrique.com. À tout de suite.
En France, plus de 2300 migrants ont été évacués hier sans incident dans la jungle de Calais vers des centres d'accueil répartis sur tout le territoire français. Le démantèlement de ce bidonville accueillant 6000 à 8000 personnes devrait être finalisé jeudi. L'auberge des migrants fournit de l'aide aux migrants depuis 2008. Claire Morin-Gibourg a joint son vice-président François Guénoc.
Alors cette première journée est très encadrée par des forces de police considérables, avec aussi énormément de journalistes. C'est bien passé. C'est pas une surprise, parce que une partie de la population du camp, de toute façon, voulait partir, voulait aller dans les centres d'accueil et d'orientation que le gouvernement a ouverts. Et il semblerait qu'à peu près un petit 2000 personnes soient parties aujourd'hui. Nous, de notre côté, les associations ont divers rôles sur le camp. On s'est contenté d'assurer notre travail habituel, qui consiste à préparer 2500 repas chauds, à distribuer en particulier en ce moment des sacs. On n'a pas vraiment participé à cette évacuation, dans la mesure où on n'est pas d'accord ni avec le fait que le gouvernement ne propose pas pour nous une offre suffisante, si vous voulez, pour une partie de la population, et aussi du fait du caractère précipité de cette évacuation.
Et que vont devenir les migrants qui refusent de quitter la jungle?
Alors pour l'instant, il y a des gens qui hésitent et il y a des gens qui effectivement ne veulent pas partir. Alors ceux qui hésitent, c'est en particulier les personnes qui, on dit dans le jargon européen, sont dublinées, c'est-à-dire ont laissé leurs empreintes digitales et en général pas de leur plein gré, en général de force, en Italie, en Grèce, en Bulgarie, dans le pays d'arrivée en Europe. Et ces personnes-là sont supposées demander l'asile dans ces pays-là et donc risquent l'expulsion. Ce Cazeneuve, le ministre de l'Intérieur, a promis qu'elle pourrait quand même demander l'asile en France, mais pour l'instant, on a des éléments contradictoires là-dessus, on n'a pas l'assurance qu'ils pourront le faire. Et il reste une partie de la population du camp qui, eux, tiennent à tout prix à leur projet en Grande-Bretagne. Une partie est déjà partie ailleurs, notamment à Paris, 2 à 3 000 personnes environ. Ces personnes-là probablement chercheront à revenir peut-être dans quelques jours ou dans quelques semaines. L'autre est encore sur le camp et va aussi peut-être partir ou peut-être monter dans les bus, mais avec un projet de revenir à terme, à court terme.
Et alors, selon vous, le gouvernement français annonce que le démantèlement doit être fini dans quelques jours, dans 4 jours exactement. Est-ce que vous pensez que c'est possible ?
Oui, c'est possible. À partir de demain, peut-être, ou après-demain, des bulldozers vont arriver pour un petit peu commencer à pousser quelques cabanes et faire comprendre aux personnes que ça y est, c'est la fin du camp. On aura encore sans doute une ou deux journées où il y aura pas mal de candidats pour monter dans les bus pour les centres d'accueil. Comme je vous le disais, peut-être les autres vont se disperser et effectivement, en fin de semaine, il ne devrait plus y avoir personne dans le bidonville. Sachant qu'il restera des personnes dans les deux structures que sont le centre Jules Ferry avec la Maison des Femmes et le CAP, c'est-à-dire le camp de conteneurs, où le gouvernement met les mineurs isolés dont il, pour l'instant, il ne sait pas tout à fait vraiment quoi faire.
François Guénoc, vice-président de l'association L'Auberge des Migrants à Calais en France.
Plein feu sur la présidentielle américaine de 2016, Hillary Clinton et Donald Trump abordent les deux dernières semaines de la campagne. Le milliardaire républicain prédit qu'il fera mentir les sondages avec une surprise dans les urnes digne du Brexit. Jacques Aristide.
À Tampa, en Floride, grand état où il est donné perdant contre la démocrate, Donald Trump a maintenu hier, lors d'un gigantesque meeting, que son camp était en train de gagner.
Il y a des sondages réalisés avec une forte tendance démocrate comme ce sondage bidon des ABC. Sondage complètement bidon. Mais dans les sondages qui signifient quelque chose, ces sondages qui sont vrais et qui se sont révélés exacts au fil des ans, nous menons par deux points à l'échelon national.
En fait, au niveau du pays, les sondages ne lui sont pas plus favorables qu'en Floride. L'ancienne chef de la diplomatie recueille 45% des intentions de vote en moyenne, contre environ 40% pour le candidat républicain et 6% pour le libertarien Gary Johnson. Cette avance est très supérieure à celle qui a permis à Barack Obama d'être facilement réélu il y a 4 ans. Mais Donald Trump a de marteler que ce qui se passe en ce moment est plus fort que le Brexit et que la voix de l'électorat se fera entendre dans les couloirs de Washington et dans le monde entier. Son équipe de campagne a lancé hier soir, depuis la Trump Tower à New York, une émission quotidienne sur Facebook Live qui se poursuivra jusqu'au vote du 8 novembre dans le but de contourner le filtrage des médias d'après cette équipe. De son côté, toute la famille démocrate sillonne les États-Unis pour ainsi aider Hillary Clinton et les candidats au Congrès. Une famille qui inclut bien évidemment Barack Obama, qui se trouvait hier en Californie, ensuite à Las Vegas dans le Nevada. Pour le président sortant, il ne suffit pas qu'Hillary gagne. Nous devons l'aider à gagner largement pour envoyer un message, dit-il. Nous ne voulons pas qu'elle passe de justesse, surtout quand l'autre commence à râler en affirmant que le jeu est truqué.
Et en passant, cela signifie que vous n'avez pas les capacités requises pour faire ce travail. Parce qu'il y a un tas de fois où la tâche devient ardue. Il y a beaucoup de fois où les choses ne se déroulent pas comme prévu et vous devez être en mesure de tenir bon.
Quant à Hillary Clinton, elle battait campagne hier dans le New Hampshire, où les sondages la donnent gagnante. Pas moins de 37 des 50 États américains proposeront le vote anticipé en personne d'ici au jour J. Et tous offrent le vote par courrier, selon des règles variables.
Salut les amis, Roger Montou, la voix de l'Amérique. Restez branchés chaque mardi dans l'émission RM Show entre 20h et 21h, temps universel. Au menu, antenne libre, des sujets, débats. RM Show donne la parole aux auditeurs de la VOA. Ne ratez pas votre émission interactive. RM Show vous dit Peace Africa.
I was all alone, was so bad,
so bad.
And there she go,
there she go.
She touched my heart and said, "Ebezina knows you go."
Hey,
was so glad. Yo.
Et c'est la fin de cette édition. Michel Joseph a dirigé la mise en onde, Morgane Guiriec et Gaby Dorsil à la présentation.
Ainsi va le monde aujourd'hui. Merci à vous tous qui nous suivez sur Facebook. On a atteint la barre des 2 millions. On maintient la conversation. N'oubliez pas de visiter notre site internet voafrique.com pour plus d'infos 24 sur 24.
Écoutez Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. À Bamako sur 102 FM, Raga FM Kinshasa, Soleil FM Conakry, 92.3 FM, Radio Wenpanga, Wayegouya Burkina Faso et bien d'autres encore. Sans oublier sur Ondes Courtes, Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique.